VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Morgane Guiriec au micro. Bonsoir à tous. Dans quelques instants, c'est le plus avec Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est de retour à Bujumbura après l'échec de la tentative de coup d'État contre lui. Plusieurs leaders des putschistes ont été arrêtés, mais des informations contradictoires circulent au sujet de leur chef, le général Godefroy Niyombare. Certaines sources affirment qu'il est lui aussi arrêté, d'autres le disent en cavale. Le point depuis Bujumbura avec notre confrère Léon Massengo de Radio Bonesha.
Dans son discours beaucoup attendu, déjà disponible sur Internet, le président Pierre Nkurunziza félicite l'armée, la police et la population et minimise les mouvements de contestation dans la rue. Dans l'après-midi de ce vendredi, les manifestations ont commencé timidement dans la capitale Bujumbura pour se consolider dans les quartiers comme Musaga, Zabe, Kanyusha et Nyakabiga. Les manifestants et les policiers sont toujours face à face. La radio-télévision nationale a montré à la mi-journée de ce vendredi trois putschistes, dont le général Cyril Ndayimbye, ancien ministre de la Défense du Burundi, et le porte-parole du comité pour la concorde nationale, Zeno Ndabaneze, qui ont été arrêtés dans un quartier appelé Kibenga vers le sud de la capitale Bujumbura. Mais la grande question qui s'oppose ou inquiétude, c'est la répression qui risque d'être aveugle et globalisante aussi bien pour les putschistes que pour ceux qui ont soutenu de près ou de loin le putsch. Des arrestations en cascade ont déjà commencé. L'autre défi pour le président Nkurunziza, comment organiser les élections en deux semaines dans son contexte de crise politique et sécuritaire. Léon Massengo, Bujumbura, La Voix d'Amérique.
Et dans une lettre adressée en début de semaine au chef d'État de la région, quatre anciens présidents burundais, à savoir Jean-Baptiste Bageza, Sylvestre Ntibantunganya, Pierre Mbuyoya et Domitien Ndayizeye, jugent anticonstitutionnelle la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat. Elle risque de compromettre les acquis de la paix, ont-ils souligné. Pour parler de paix sur la crise malienne, une dizaine de chefs d'État africains et des représentants de plusieurs organisations internationales sont à Bamako ce vendredi 15 mai pour la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale. Un document que la coordination des mouvements de l'Azawad refuse de signer. Au même moment, à Ménaka, les combats continuent entre la CMA et les forces pro-gouvernementales. Le reportage de Kassim Traoré.
Les Mali, les groupes d'autodéfense réunis au sein de la plateforme, les pays de la médiation, la France, vont signer l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Une grande cérémonie qui réunit 10 chefs d'État africains, parmi lesquels Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame du Rwanda et l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. La coordination du mouvement de l'Azawad a envoyé ses représentants à cette cérémonie, mais ils ne vont pas signer le document, même si ils ont donné. La CMA demande la réouverture des négociations. Pour la communauté internationale, cela n'est pas possible, mais toutefois, les portes de la signature leur seront ouvertes. Pour bon nombre de Maliens, la signature de cet accord doit être synonyme de paix. Mais tel ne sera pas le cas, car les groupes d'autodéfense ont été attaqués ce matin à Ménaka par les hommes de la CMA. Ça s'est passé dans la localité de Tine Fatima, située à 65 km de Ménaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Deux villages ont été attaqués par Boko Haram cette semaine dans le nord-est du Nigeria. Au moins 55 civils ont été tués, indiquent aujourd'hui des habitants et un représentant d'une milice locale d'autodéfense citée par l'AFP. Des maisons ont été brûlées. Par ailleurs, de nombreux insurgés lourdement armés ont tenté d'attaquer Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est, mercredi soir. Mais ils ont pu être repoussés par les soldats d'une caserne non loin. C'est en tout cas ce qu'indique l'armée et des habitants. Gilles Le Guen, le djihadiste breton, a été condamné aujourd'hui à 8 ans de prison ferme à Paris. Le Français âgé de 60 ans avait rejoint les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, au Mali, déclaré coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il a notamment pris part à l'offensive des islamistes sur la ville de Diabali en janvier 2013. L'ancien toxicomane, converti à l'islam, envisage de faire appel, selon son avocat cité par l'AFP. Lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Plusieurs centres d'accueil vont ouvrir au Niger. Mis en place par l'Union européenne, ils auront vocation à porter des politiques de développement pour les migrants et pour les États. D'après le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'objectif est de dissuader les migrants de poursuivre leur route vers l'Europe en leur proposant des alternatives économiques sur place. La milice des Chabab a capturé deux bases de gouvernement dans la région du Bachabélé en Somalie, signalent des responsables locaux. On fait le point avec Camille Grosdidier.
Le gouverneur du Bachabélé, Abdelkader Mohamed, a dit à la Voix de l'Amérique que des miliciens lourdement armés ont lancé des attaques contre les villes d'Oudegle et de Moubarak tôt vendredi. Ces localités sont situées à environ 75 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Plusieurs soldats gouvernementaux auraient été tués au cours de l'attaque. Le gouverneur a dit qu'il mobilisait ses troupes pour reprendre le territoire. Les sites attaqués étaient gardés par des troupes de l'Union africaine jusqu'à il y a deux mois. Lorsqu'elles sont parties, la sécurité a été transférée à des soldats somaliens. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué une visite sans précédent en Somalie, où il a rappelé que les États-Unis sont prêts à aider à former l'armée somalienne et à y intégrer des forces régionales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Plusieurs centaines de migrants à bord de navires en perdition ont été secourus aujourd'hui au large de l'Indonésie. Parmi eux, on compte notamment de nombreux Rohingyas, membres d'une minorité musulmane de Birmanie, figurant parmi les plus persécutés du monde, selon l'ONU. Jusqu'à 8000 personnes dérivent ainsi en mer, menacées de mourir de faim ou de maladie. Salwa Jafari nous en dit plus.
Le Rafio était en perdition depuis deux mois. À son bord, 300 personnes affamées, exténuées. Un drapeau noir flotte sur son mât en signe de deuil. Une dizaine de passagers sont morts en route. Leurs cadavres ont été jetés dans l'océan Indien. La mer d'Andaman s'est transformée en une Méditerranée de l'Asie traversée par des groupes toujours plus nombreux de migrants musulmans venus principalement de Birmanie, parfois du Bangladesh, dans l'espoir d'une vie meilleure en Malaisie ou en Indonésie.
Je ne veux pas retourner au Bangladesh, nous sommes très pauvres.
La Thaïlande, de longue date accusée de laisser faire ce trafic d'êtres humains sur son territoire, vient de réagir en convoquant le 29 mai un sommet d'urgence avec une quinzaine de pays concernés. Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch, Asie, explique.
Il faut qu'il y ait une concertation entre les gouvernements. Il faut arrêter de jouer un ping-pong humain avec les gens et leur permettre d'accoster.
Entre-temps, la proposition du gouvernement thaï de construire des refuges pour les rescapés déchaîne déjà l'hostilité des populations locales qui n'ont nulle envie de cohabiter avec ce qu'ils considèrent des parias.
Des secouristes au Népal ont pu localiser la carcasse de l'hélicoptère américain qui s'est écrasé lors d'un vol de secours il y a trois jours. Selon les autorités, les huit personnes à bord, six marines américains et deux soldats népalais, n'ont pas survécu. Et les djihadistes du groupe État islamique ont lancé une série d'attaques sur plusieurs fronts dans la province clé d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, dans leur dernière tentative en date de reprendre l'initiative sur le terrain. Les combattants du groupe ultra-radical sunnite, qui contrôle une grande partie de cette province, ont pris depuis hier le contrôle de nouveaux secteurs à Ramadi, son chef-lieu, mené des assauts près de Fallujah, et se sont emparés de la petite localité de Djouba. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec et je cède la place à Claire Morin-Gibourg qui vous propose Celle Plus.
Soit. Soyez au